un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
En anglais, ça s'appelle « name and shame », ça veut dire « nommer et faire honte ». Ce sont donc des humiliations publiques, lynchages sur les réseaux ou des dénonciations, parfois des appels au secours, parce qu'on ne sait pas quoi faire ni à qui s'adresser. C'est un drôle de trait de notre époque, une tendance, une pratique qui vient parfois se substituer à une certaine idée de la justice qu'on estime impuissante, inefficace, lente, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Il y a aussi de temps à autre un arrière-goût de revanche sociale, une victoire des faibles, des opprimés, des victimes contre les élites, ceux qui dominent. Ça se passe surtout sur les réseaux sociaux, mais parfois aussi sur les murs des villes. Ça fait du bien aux uns et du mal aux autres. C'est une sorte de tribunal, open bar, sans règles ni lois, autre que les clics et sa propre morale. On vous raconte tout de suite trois histoires de ce genre. Il y a deux auteurs de dénonciation sur les réseaux et une victime. Ces histoires ont été choisies sans intention démonstrative ou représentative, mais plutôt dans l'idée de nous faire réfléchir et de montrer la complexité de réalités diverses que recouvre le name and shame. On n'approuve pas, je le précise, les auteurs et on ne défend pas non plus la victime. On vous laisse vous faire votre avis, inventer des nuances à la morale de ces histoires racontées par Clara Garnier-Amouroux.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Louis, j'ai 27 ans, je suis journaliste indépendant depuis quelques années et j'habite à Calais. En octobre 2019, je suis journaliste indépendant basé au Maroc depuis à peu près un an et demi, quand je suis contacté par la rédaction d'un magazine féminin français qui me demande de faire un reportage pour eux de 3-4 jours entre Casablanca et Rabat. Le salaire sur lequel on se met d'accord, c'est plusieurs jours de reportage, plusieurs jours de commande, ce qui donne du 1500 euros net. Le salaire est un bon salaire. En ce moment, dans la presse et depuis quelques années, le prix de la photo est en constante baisse, mais certains magazines ont encore de l'oseille. Et vivait à peu près à ce moment-là avec 600 euros par mois. Donc 1500 euros, ça représentait à ce moment-là, pour moi, 6 mois de loyer à Casablanca. Et du coup, ce jour-là, je suis plutôt content. Le reportage se fait en temps et en heure. Et moi, les photos, je les rends à la personne du service photo dans la semaine qui suit. Et ils me répondent, c'est top, merci, bien reçu. Et du coup, voilà, on a le sentiment du travail bien fait, fait en temps et en heure. Et la publication intervient, je crois, le mois qui suit, comme ce qui se fait d'habitude. Et c'est chouette de voir ces photos sur papier glacé. Quelques semaines après, je me pose la question de savoir quand est-ce que je serai payé. Le reportage a été publié en novembre 2019. Et je fais un premier email de relance le 29 janvier. Et un mail très poli, je viens vers vous car à ce jour, je n'ai pas encore été payé du travail effectué au Maroc et publié le 13 décembre. Nous sommes au-delà du délai normal de paiement. J'ai pas de réponse. À ce mail-là, j'ai pas de réponse. Et à partir du 18 février, je me dis que je vais commencer à passer des coups de fil. Et donc, j'achète du forfait pour appeler vers la France depuis le Maroc. Et j'enchaîne les coups de fil. À peu près tous les jours. Et j'essaye 2 à 3 fois par jour. C'était oui, mais je suis pas au niveau du service compta, donc j'ai pas la réponse de la compta, je suis pas au même étage. Enfin, d'accord, mais moi je suis à 2600 km en fait. Donc moi, ça commence à être un petit peu compliqué de mon côté. Et là, plus de réponse au mail, plus de réponse au téléphone, je commence à bouillir intérieurement. Et c'est le 10 mars que j'ai vraiment plus un rond. J'ai quelques semaines de retard de loyer, je suis en colocation avec une autre journaliste qui est un peu dans la même situation via un autre magazine. Et du coup, on commence un peu à flipper. Et en tant que journaliste, j'ai mon travail qui est le photojournalisme et le journalisme, et j'ai des hobbies, dont le piano. Donc j'avais un synthé qui était franchement pas mal du tout. Et le 10 mars au soir, je tweet en disant que je revends mon piano pour payer mon loyer, parce qu'un magazine ne m'a pas payé. Et j'ai vendu ce piano à peu près 220 euros, ce qui me permettait de payer le loyer du mois. Je connais assez peu de journalistes dans la vraie vie, mais Twitter permet de suivre le travail des collègues, de suivre un peu ce qui se fait dans les magazines et dans les journaux français. Et donc, au fil des années, j'ai construit pas une communauté, parce que c'est pas vraiment une communauté d'influence comme des influenceurs, mais un groupe de personnes qui sont abonnées pour suivre et les jeux de mots pourris et les reportages. Ça représente 60 000 followers, donc ce qui est pas mal. À partir de ce moment-là, petit à petit, on me pousse à nommer le magazine, à dire oui, mais là, c'est un peu de l'abus, c'est trop long, n'hésite pas à le nommer. Ce que j'ai pas forcément envie de faire dès le départ, parce que d'autres médias peuvent se dire c'est un emmerdeur, et un gars comme ça, si il nous met dans la sauce, comme on dit, en public, s'il y a deux semaines de retard dans ses piges, n'allons pas travailler avec lui. Mais ça trotte dans ma tête. J'ai plus de synthé, donc faut que je m'occupe, donc je réfléchis. Et la décision est prise de nommer en place publique ce mauvais payeur. Je fais un nouveau tweet en reprenant celui où je vendais mon synthé. Je dis toujours pas de réponse, ni par mail, ni au téléphone. Étant basé à 2314,96 km de votre rédaction, il m'est difficile de venir frapper à la porte. Je profite donc de ce cher réseau social. Où sont mes sous? Et à partir de ce moment-là, ça s'emballe. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de réponses, le tweet tourne, beaucoup de collectifs de pigistes, collectifs de soutien aux journalistes indépendants, etc., qui s'emparent un peu du sujet, qui eux-mêmes font en sorte que le magazine voit ce tweet. Donc mentionne. Et le community manager ou la community manager du magazine va être inondé de notifications qui vont mener vers ce message. Donc, c'est une manière comme une autre de les contacter. Sauf que c'est plus du téléphone sans réponse, c'est plus du mail sans réponse, c'est en public. Et le lendemain matin, des personnes interpellent aussi publiquement d'autres journalistes de la rédaction, voire même le directeur du groupe, qui est un homme plutôt connu sur la place médiatique, qui est un homme très sûrement plus puissant que moi, mais il répond à un tweet qui l'interpellait en disant « Ça me paraît étrange, mais je vais me renseigner. » La journée passe, des messages monumentaux en nombre qui interpellent ce magazine, quelques insultes pas très classe, mais surtout des « Mais payez notre copain, en fait, payez notre pote !» Et donc ça, je suis très content de voir ça, et je me dis « Bon, au moins, même si je suis pas payé, ça aura servi à ça. » Et à 23h54, dans mes mails, je reçois une capture d'écran d'un avis de virement de la part de la comptabilité du groupe. « Madame, monsieur, veuillez trouver ci-joint l'avis détaillé de notre prochain virement. Cordialement, la comptabilité. » Et donc, ce soir-là, 23h54, ils ont réveillé le comptable. Le comptable a pris son petit chéquier, enfin son petit compte bancaire, et il a fait ce virement de 1428 euros. Donc, entre 10h et 23h54, j'ai réussi à faire plus via cette dénonciation publique qu'en 2 mois et demi de relance par téléphone, par mail, élégante, en donnant du bonjour monsieur, du bonjour madame, du comment allez-vous, j'aimerais juste bien être payé. Voilà, j'ai vendu un piano et j'ai été payé en 24 heures.
Je m'appelle Koulma, j'ai 27 ans, j'habite à Paris et je suis prof en design. Depuis que je suis petite, on m'a toujours fait sentir que j'étais plus grosse que les autres et depuis l'adolescence, je suis restée grosse. Aux yeux des gens, même très très grosse, ça dépend du regard de la personne qui me nomme. Et du coup, les consultations médicales, elles sont, Elles sont très centrées sur mon poids. Peu importe ce pourquoi je viens, c'est mon poids. Quand je vais voir mon dentiste, on me parle de mon poids. Quand je vais voir un ophtalmo, on me parle de mon poids. Je viens pour un rhume et puis je repars avec juste une ordonnance pour faire du sport et puis pour aller voir une diététicienne. Il y a un rendez-vous dont je me souviens très bien. C'était une semaine de février quand j'avais 22 ans. J'habitais à Strasbourg à l'époque, donc les hivers étaient assez froids. J'avais un rhume et un peu de tout, et je me suis dit, bon, bah, il faut que j'aille consulter. Ma médecin traitant, elle est en vacances à ce moment-là, et je me dis, bon, bah, merde, il va falloir que j'aille voir quelqu'un d'autre. Je prends rendez-vous sur Doctolib avec un médecin que je connais pas, c'est un gars de mon quartier. Je vais voir sur Google, il est pas trop mal noté, donc je me dis, allons-y. Je suis arrivée au quatrième étage où était le cabinet, complètement essoufflée parce que j'avais une bronchite, que je suis fumeuse, enfin bref, j'arrange pas mon cas, mais... J'arrive complètement essoufflée, le gars me regarde un peu de travers et quand j'arrive dans son cabinet, il se passe tout ce que j'avais pensé qu'il se passerait. Donc il me fait me peser, on parle de mon poids pendant 10 minutes et au bout de 10 minutes hyper désagréable, j'arrive à dire « bah en fait, je viens pas pour mon poids mais pour une bronchite. Est-ce qu'on pourrait juste 2 secondes parler de ce pourquoi je viens quoi ?» Et le gars finit par écouter mes bronches sur la chaise parce qu'il avait pas envie que je m'assoie sur son... lit d'auscultation, je pense qu'il avait peur pour son matériel. Et il me dit, mais vous avez du gras dans les poumons, c'est sûrement pour ça que vous avez une bronchite. Et de toute façon, madame, si vous cherchez pas à maigrir, vous allez crever avant vos 30 ans, c'est sûr. D'un problème cardiaque ou respiratoire, mais vous allez crever. Il m'a dit ça avec ces mots précis-là. Ça a beau faire plusieurs années, c'est un truc dont je me souviens hyper précisément. Je revois son intonation, je revois sa tête. Je me souviens du tableau dans le cabinet accroché à l'arrière sur le mur. Et puis là, on se sent ultra sonné, il y a des mots qui résonnent vachement longtemps. C'est vraiment quelque chose de s'entendre dire qu'on va mourir. Surtout quand on vient pour une bronchite, on se dit « bah merde alors ». On se sent ultra culpabilisé aussi parce que le gars m'a quand même dit « si vous ne cherchez pas à maigrir, vous allez mourir ». Sous-entendu, si je ne fais rien, ce sera de ma faute si je vais mourir. Après ce rendez-vous, il se passe quelques mois avant que je tombe sur le travail d'une association qui s'appelle Gras Politique et qui édite une liste de soignants dits « safe ». Pour nous, les personnes grosses, ça veut dire qu'on sera traité avec dignité, que le matériel y sera adapté et que toute la consultation ne va pas tourner autour de notre poids. Et je me dis « ah bah chouette, ça va m'éviter la prochaine fois que ma généraliste est en vacances de retomber sur un connard ». Et je vois par ailleurs qu'il y a aussi une liste non safe. Et je me dis, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et là, je tombe sur une page internet un peu sommaire avec une liste de témoignages de gens qui ont vécu des expériences grossophobes face à des médecins. Et là, je me reconnais dans absolument tous les témoignages. La gynéco qui refuse de donner la pilule parce que, bah non, madame, vous n'avez pas de vie sexuelle, c'est pas possible, enfin. Le dentiste qui refuse de soigner parce qu'il a peur pour son fauteuil. Et il y a le témoignage d'une nana d'à peu près mon âge, à qui on a aussi dit qu'elle allait crever, avec ces mots-là. Et là, là, ça fait bim. Je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je l'affiche sur Internet, il faut que je dise ce qui s'est passé, il faut que je mette son adresse, il faut que je mette son nom. Et il y a un déclic qui se fait à ce moment-là, et donc quelques mois après, j'écris un témoignage en racontant ce qui s'est passé, en cherchant sur Doctolib l'adresse et le nom du médecin pour être sûr de ne pas faire de faute, je copie-colle les informations et tout ça. Rien que de revoir la photo sur Doctolib du médecin, ça m'a fait un truc. Et je me suis dit, non mais vraiment, faut que je l'affiche, ce gars-là, quoi. Et j'écris les choses de manière assez factuelle dans le témoignage. Je raconte ce pourquoi je suis venue, ce qu'on m'a dit. Je dis par exemple qu'il n'y avait pas de chaise sans accoudoir, donc j'ai pas pu m'asseoir dans la salle d'attente. Je raconte que le gars avait peur pour sa table et que du coup j'ai été auscultée sur la chaise face au bureau, ce qui n'est pas normal, je crois. Et puis, et je finis le témoignage quand même en rajoutant un truc du style... Je n'y retournerai pas, point. Mais comme si c'était utile de le préciser, évidemment que je ne vais pas y retourner. Il y avait des espèces d'envolées lyriques, et après je me suis vite reconcentrée sur les faits en me disant bah, « en fait, c'est quand même assez sérieux. Là, tu es en train d'afficher un médecin sur Internet. Raconter les faits, ce sera suffisant, en fait. Ouais. » Ça m'a pris plusieurs jours de l'écrire. J'y suis venue à plusieurs fois parce que je ne voulais pas que ce soit ni trop violent à lire, parce que je me dis que... En tant que personne grosse, moi, quand je lis d'autres témoignages de personnes grosses, parfois c'est assez violent de lire des violences sexuelles décrites avec précision et tout ça. Et puis, par ailleurs, je voulais quand même que les gens du monde entier sachent ce qui s'était passé. Donc, J'ai pris quelques jours en revenant dessus de temps en temps. C'était une note sur mon portable et donc j'écrivais le témoignage dans les transports en rentrant du taf et j'ai fini par envoyer le mail à l'association au bout de quelques jours. Quelques semaines après, je retourne sur le site internet de l'asso et je me rends compte que mon témoignage fait partie de la liste et je vois le nom du médecin s'afficher avec mes mots mis entre guillemets, je vois l'adresse, etc. Il y a une sorte de soulagement et puis il y a aussi un sentiment assez étrange de se dire « bah merde, alors j'ai dénoncé quelque chose que je crois qui est illégal mais j'en suis pas sûre » et c'est un sentiment assez étrange de se dire « bon ben qu'est-ce que j'ai causé ?» Ce médecin-là, je ne sais pas s'il a eu des retours, parce que, à part s'il s'est cherché sur Google, je ne sais pas si on l'a prévenu, ou peut-être que quelqu'un l'a prévenu en disant « hey mec, je t'ai trouvé sur une liste de non-recommandations ». Moi, je me suis permise aussi, des années plus tard, de lui envoyer une brochure avec des conseils pour mieux accompagner et puis mieux traiter les personnes grosses. Je ne sais pas s'il l'a eu, personne ne m'a répondu. Et j'ai jamais eu de nouvelles de ce gars-là. On reçoit quelques mails avec l'association de médecins qui nous disent « oui, merci de me retirer de cette liste, ce témoignage est complètement bidon, etc. etc. » Nous, on fait le pari de croire les victimes, on fait le pari de croire ce que nous aussi on vit. Donc évidemment qu'on publie ces témoignages-là, mais j'aimerais qu'on puisse... leur famille tombe sur leur nom et leur fasse la morale. J'aimerais que leur mère les appelle le soir pour leur dire « mais rends-toi compte de ce que tu fais ». J'aimerais que eux-mêmes, en voyant leurs propres paroles, leurs propres gestes, mesurent la pleine gravité de ce qu'ils font. Mon témoignage à moi, il est violent. Il y a d'autres témoignages que j'ai lus qui sont beaucoup plus violents, qui finissent par des décès, qui finissent par des fausses couches, qui finissent par des choses très, très graves et très problématiques. Mais force est de constater que cette liste, elle existe depuis des années et que ça se passe pas. On n'a pas d'excuses, on n'a pas de médecins qui reviennent sur leurs faits et gestes, on a seulement des vieux gars qui veulent être retirés de la liste et ça s'arrête là.
Culture, les pieds sur terre.
Je viens d'avoir 60 ans et je vis dans cette magnifique chaîne des Pyrénées du côté de Bagnères-de-Luchon. Et à l'âge de 6-7 ans, on me faisait déjà tirer le merle à la 9 mm. À l'époque, je partais à la chasse avec papy ou papa. C'était le soir après l'école pour aller chasser le lapin autour du village. C'était au mois d'octobre pour le passage des palombes. Ici, la référence dans la vallée, puisqu'on était tous des ruraux, des vrais, pas des néos comme ceux qui arrivent aujourd'hui, c'était le meilleur chasseur, le meilleur pêcheur, celui qui trouvait le plus grand nombre de paniers de cèpes à l'automne. C'était ça, nos critères de référence. Alors, j'ai travaillé comme infirmier libéral dans ma vallée 360 jours par an. Et les 5 jours que je prenais de vacances pour me reposer, je partais chasser l'ours au Canada. C'était mon exutoire. Donc, j'ai travaillé 15 heures par jour pendant 20 ans pour arriver à avoir un niveau de vie qui me permette de me payer mes passions. Alors aujourd'hui, 90% de ma chasse, c'est une chasse à l'arc. Et j'ai voulu faire le challenge des plus grands animaux du monde, prélevés à l'arc. Alors c'est passé par le plus gros oiseau, qui était l'autruche. C'est passé pour le plus grand animal qui était la girafe. J'ai eu chassé le dindon sauvage aux États-Unis, l'elk, le wapiti, le progorne. Et ma passion m'a mené à essayer de la faire partager à d'autres. Et puis avec le développement d'Internet et des nouvelles technologies, donc j'ai créé d'abord mon premier site qui était pour celui de mon association. Et par la suite, j'ai réussi à fabriquer mon premier site. Et donc je me suis passionné pour le montage vidéo. Donc je me suis mis à faire beaucoup de films animaliers que j'ai publiés. Et ensuite, mes voyages de chasse avec les images, les tirs des animaux, les trophées prélevés. Et c'est vrai que visuellement, ça m'a permis de contacter pas mal de personnes qui voyaient mes sites, qui avaient envie de franchir le pas d'une expérience soit de formation de chasse à l'arc, soit de voyage de chasse. Et ça m'a permis de les amener lors de mes péripéties à travers la planète. Et en gros, quand je publie un film, dans le mois, j'ai au minimum 3000 vues. Voilà, donc après, ben, j'ai essayé de développer mes sites internet pour les voyages, pour ma passion. Et ben, c'est ainsi qu'après, j'ai eu le retour de médaille. On est en 2018-2019, ça fait un moment que je publie beaucoup de vidéos, et c'est vrai que il y a des likes, mais il y a aussi des mauvais commentaires. Donc là, j'ai commencé à épurer et j'ai verrouillé tous mes sites. Quand je publie, il n'y a aucune possibilité de laisser de commentaires. Août 2019, j'ai des amis qui me contactent pour me dire que je faisais l'objet d'un lynchage sur Internet via un site Facebook contre les chasseurs à l'arc et les chasseurs tout court dans les pays d'Afrique. Sur leur site, ils avaient affiché mes photos, des images de moi prises en photo avec un zèbre, une girafe, une autruche, parce qu'ils avaient vu tous mes films, ils faisaient des captures d'images, ils avaient tapé mon nom, et à l'issue de ça, donc ils avaient retrouvé des photos sur Google. Il y avait mon prénom, il y avait mon nom, il y avait mes liens de site, donc sur mes liens de site, il y a mes informations personnelles. Donc par effet rebond, tout le monde savait qui j'étais. Il dit, voilà, le nouvel assassin, allons lui mettre la honte. Et que ben, les commentaires y allaient fort avec des dégueulis, des enculés, des assassins. Et... Par contre, l'erreur qu'ils ont commise avec leur passion déchaînée de haine et de violence, c'est qu'ils s'en sont pris à deux homonymes à moi, un pharmacien et un chirurgien dentiste, du Massif Central et du côté d'Angoulême, et qui se sont fait déglinguer les pauvres sans savoir pourquoi ni comment. Donc à l'époque, j'ai pris le téléphone, j'ai recherché ces gens-là et je me suis excusé auprès d'eux. Donc un était chasseur, il me dit « j'en ai rien à foutre ». Et l'autre, je me suis excusé parce que le pauvre gars, il me dit « oui, des patients m'ont dit que… » J'ai dit « voilà, donc je suis désolé, vous faites partie ». Et il y a eu un amalgame, voilà. Et par la suite, j'ai le service d'incendie et de secours, où je suis infirmier, qui m'appelle en me disant « on reçoit des mails et des messages te concernant, disant que j'étais une saloperie et qu'il fallait me virer, voilà ». Et comme le directeur de l'époque, une fois qu'il a regardé tout ça, il a dit « ce que nos sapeurs-pompiers volontaires font en dehors du service, du moment que ça reste dans la légalité, ça ne pose aucun problème ». Et donc, je n'ai pas eu de retombées à ce niveau-là. Alors, ce lynchage médiatique, il a commencé en août 2019 et il a perduré deux mois où les aboyeurs ont dégueulé, bavé, insulté. Et par la suite, j'ai reçu un message sur ma page Facebook. C'était quelqu'un qui partageait mes passions et qui avait des infos que je n'avais pas. Il me dit, voilà, la personne qui te déglingue sur Internet, il habite telle rue, et il a tel numéro de téléphone. Ouais, j'ai mon copain qui est très bon en informatique. Les gens, ils s'enregistrent, bien sûr, c'est tellement facile de s'enregistrer avec des pseudos. Mais il y en a qui sont comme moi, qui assument totalement ce qu'ils font et qui donnent leur nom et leur métier. Donc, c'est tellement facile à retrouver. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé cette personne. Alors je me suis présenté, je suis Patrice, qui est en train de déglinguer sur ton site à cause des voyages de chasse en Afrique. Et là, il a été énormément surpris. Il m'a dit, mais attention, ce message va être enregistré et sera fourni à mes avocats. Donc, je me suis dit, tiens, le monsieur, s'il fait des choses et qu'il a déjà un cabinet d'avocats, c'est que dans sa tête, il est pas serein. Alors, il me dit, comment vous m'avez retrouvé? Ben, je dis, c'est simple, je suis un excellent chasseur et donc, je sais que tu t'appelles comme ça, que tu habites à tel numéro de rue, à Brest. Et alors je lui ai dit, voilà, maintenant, je voudrais savoir pourquoi tu fais ça. Alors il m'a traité de tous les noms d'oiseaux, il m'a dit que c'était son dada, qu'il prenait quelqu'un comme ça au hasard, il tombait une photo, il balardait le buzz, il faisait son truc, et puis que j'en faisais partie. Alors je lui ai dit que c'était pas bien, et il m'a dit, je fais ce que je veux. La conversation s'est finie comme ça. Alors, le dégoût de l'être humain, ça a été la première sensation que j'ai eue. Ensuite, j'ai eu de la haine. J'ai eu de la haine pour cette personne qui... vous savez, on prend une info, on prend une image, et après, on la détourne, on la met dans un autre contexte, et à partir de là, eh ben, ça devient, ce qui était du bonheur, devient du malheur. J'étais dans ma passion, j'y croyais, j'y vivais, puis on se fait déglinguer par des gens qui comprennent rien, alors on a l'impression d'être à côté de la mission primaire pour laquelle j'avais publié mon film, pour faire découvrir la nature et une image de la chasse. Puis je vois que mon travail tombe à l'eau, puisque cette image de la chasse-là, elle est déformée, amplifiée, et là, le résultat final, c'était pas celui attendu. Le principe final, c'est le buzz. Et à travers le buzz, c'est l'humiliation. Moi, personnellement, étant rentier, donc j'ai pas le problème professionnel. Et au niveau activité secondaire, je n'en ai pas eu non plus. Donc là, on ne me l'ont pas mise. Au contraire, puisque l'effet rebond de leur démarche, c'est que dans le mois, j'ai eu 5000 visites de plus sur mes vidéos de chasse. Et comme ça fait de la publicité, eh ben derrière, j'ai gagné un voyage gratos en Afrique du Sud, offert par ces gens qui voulaient me déglinguer. Alors effectivement, dans leur conviction, quelqu'un qui a le respect de l'animal, qui se prend une mission de protéger les animaux, quand il tombe sur des photos de mes chasses, je pourrais comprendre qu'il soit pas d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord avec eux. Quand ils manifestent le dimanche à la place du Capitole avec un tambourin, avec une pancarte autour du cou, avec un poisson en disant « je suis un être vivant » et que le couillon d'à côté, avec un tambourin, toutes les 30 secondes, tape et dit « un cerf vient d'être assassiné, un sanglier vient d'être assassiné », je vais pas les voir et je lui démonte pas le dentier. Donc, ça s'appelle le respect. Quand on est une personne intelligente, on respecte les convictions d'autres, on n'est pas obligé de les partager, mais on rentre pas dans le conflit. Once the mind is calm, once the ego is quelled, travel in the realm of which there is no sign. Hold your thoughts to the present personally.
C'était Name and Shame, un reportage de Clara Garnier-Amouroux réalisé par Thomas Jost. Merci à Louis et à Koulma ainsi qu'à l'association Gras Politique. La tâche de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris, c'est notre stagiaire, c'est Flavie Champion.
Taureau, Sagittaire, Scorpion, Cancer, tout le monde connaît son signe astrologique et a consulté au moins une fois son horoscope dans la presse féminine.
Perrine Kervran.
Pourtant, la science a établi depuis la Renaissance que l'astrologie est un rideau de fumée. Cette semaine, LSD explore l'histoire et l'usage de ce qui, au départ, était une science et qui, grâce aux médias, est devenu une croyance à succès.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.